France Culture.
Le journal Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. Il n'y aura pas de procès pour la mort d'Adama Traoré. La Cour de cassation confirme le non-lieu au bénéfice des gendarmes qui avaient interpellé le jeune homme il y a 10 ans dans le Val d'Oise. L'avocat de la famille va saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Dernière plaidoirie dans le procès de l'affaire des assistants parlementaires du Front National. Les avocats de Marine Le Pen demandent la relaxe de leur cliente qui pour l'instant ne peut pas se présenter à la prochaine élection présidentielle. La loi Duplon de retour à l'Assemblée pour un débat sans vote. Le texte a été promulgué malgré une pétition qui avait rassemblé plus de 2 millions de signatures. Nous serons au Palais Bourbon dans ce journal. L'Europe de l'industrie réunie en sommet à Anvers, l'occasion pour Emmanuel Macron de défendre l'indépendance industrielle européenne face à la Chine et aux États-Unis. Nous retrouverons à Anvers notre envoyé spécial Fabien Cazot. La justice française referme définitivement le dossier de l'affaire Adama Traoré. La Cour de cassation a confirmé aujourd'hui le non-lieu en faveur des gendarmes qui avaient interpellé ce jeune homme de 24 ans en juillet 2016 à Beaumont-sur-Oise. Adama Traoré était mort 2 heures plus tard dans les locaux de la caserne de Persan dans le Val d'Oise. Sa famille a toujours affirmé que la brutalité de l'interpellation était à l'origine de son décès. En 2024, la Cour d'appel avait estimé que les gendarmes étaient restés dans le cadre de la loi. On fait le point avec Florence Turm.
Il n'y aura donc pas de réouverture d'enquête, pas de procès. La Cour de cassation confirme le non-lieu ordonné après de longues années d'instruction. Elle estime notamment que les gendarmes ignoraient l'état de faiblesse d'Adama Traoré, qu'ils ont fait un usage de la force nécessaire et proportionné, souligne leur avocat Guillaume Tapie.
Ce sont des faits tragiques et ça ne retire rien à la compassion qu'on peut avoir pour les parties civiles, mais pour les gendarmes c'est évidemment un soulagement. C'est normal parce que l'enquête était extrêmement complète, extrêmement fouillée, de très nombreuses auditions, pas moins de 12 expertises médicales, des contre-expertises. La Cour de cassation a approuvé la chambre de l'instruction d'avoir considéré que cette reconstitution n'aurait rien apporté à l'enquête, qu'elle était inutile. Il n'y avait pas tellement de doutes sur ce qui s'était déroulé lors de cette arrestation.
Cette reconstitution, qui était l'une des principales demandes de la famille d'Adama Traoré, à la sortie de la salle, sa sœur Aïssa Traoré laisse éclater son indignation et sa colère, bien décidée à poursuivre le combat.
Ils ont tué mon petit frère, on continuera à le dire, et c'est un combat que nous allons mener. Mon frère est mort ce jour-là, le 19 juillet, à cause des gendarmes qui l'ont interpellé, qui lui ont fait subir un plaquage ventral de plus de 9 minutes. Il n'y avait pas d'image et on ne veut pas de reconstitution. Mais cette vérité, nous la connaissons. Aujourd'hui encore, nous sommes scandalisés, nous sommes choqués. Et c'est un combat que nous menons pas que pour Adama Traoré, mais pour la question des violences policières en France. Dire que la police française est raciste, que le système français judiciaire est raciste. Et aujourd'hui, nous l'avons entendu, ils ont protégé les gendarmes. Mais nous savons tous la vérité, tout le monde connaît la vérité. Aujourd'hui, l'affaire Adama Traoré est un cas d'école. Aujourd'hui, l'affaire Adama Traoré a porté au plus haut la question des violences policières, le racisme systémique aussi qu'il y a au sein de la justice. Et c'est un combat que nous mènerons jusqu'au bout. C'est un combat aujourd'hui qui est national, c'est un combat aujourd'hui qui est international.
Les proches d'Adama Traoré et leur avocat entendent maintenant porter l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme.
Florence Turm, la Cour européenne des droits de l'homme qui siège à Strasbourg, n'examinera pas l'affaire avant plusieurs mois, voire quelques années. Marine Le Pen est peut-être en train d'abattre ses dernières cartes pour se présenter à la prochaine élection présidentielle, ou plus exactement ses avocats qui plaident en ce moment dans le procès en appel de l'affaire des assistants parlementaires du Front National. La semaine dernière, l'accusation avait requis la confirmation de la peine de 5 ans d'inéligibilité prononcée en première instance à l'encontre de la patronne des députés RN. Nicolas Abalu, bonsoir.
Bonsoir.
Vous suivez ce procès devant la Cour d'appel de Paris. Les avocats de Marine Le Pen demandent la relaxe de leur cliente, condamnée, rappelons-le, en première instance pour détournement de fonds publics.
Oui, et pour cela, avant même la question sur l'intention délictuelle, avant même la question de la complicité à l'endroit de Marine Le Pen, eh bien la défense a passé plusieurs heures sur des points juridiques qu'elle juge fondamentaux. Selon elle, il n'y a pas de détournement de fonds. Il faut un ordonnateur, assure l'un des deux avocats de Marine Le Pen, Maître Bosselu, c'est-à-dire quelqu'un qui recouvre des recettes et émette des ordres de recouvrer. Ce ne sont pas les députés européens, c'est le Parlement qui est ordonnateur. Comprendre, c'est le Parlement qui serait alors fautif, auteur d'un détournement. Ce Parlement aurait règles floues et son contrôle très sommaire, forcément sommaire. L'Europe inspire décidément Maître Bosselu, pastichant le général de Gaulle. On saute comme un cabri en criant « le système, le système, le système ». Le système, c'est quoi? C'est un espèce de sentiment qui flotte au-dessus du dossier. Selon Maître Bosselu, aucun document ne permettrait de dire que Marine Le Pen aurait donné des instructions, pas de système, pas de complicité. Aucun acte positif ne peut être imputé à sa cliente. Selon lui, pas d'acte d'embauche précisé par elle. Alors, eh bien, il assure qu'il n'y aurait jamais eu la volonté de contester les faits eux-mêmes par Marine Le Pen, mais qu'elle voulait les remettre dans leur contexte. Je demande, termine-t-il, un traitement identique aux affaires similaires. Cette audience, veut-il croire, rebat les cartes.
Nicolas Balu, depuis l'ancien palais de justice de Paris, avec Selim Guéribi pour les moyens techniques. La cour d'appel de Paris rendra son arrêt dans ce procès. Eh bien, la décision sera rendue le 7 juillet prochain. Une situation inédite aujourd'hui à l'Assemblée nationale, un débat sur une loi déjà promulguée, la fameuse loi Duplomb visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur. Un débat sans vote rendu possible par une pétition contre le texte qui avait recueilli plus de 2 millions de signatures. La loi Duplomb a été largement censurée par le Conseil constitutionnel qui a notamment rejeté la réintroduction de l'acétamipride, un pesticide interdit en France. Le sénateur LR Laurent Duplomb a déposé une nouvelle proposition de loi pour obtenir cette réintroduction, une tentative que ne soutiendra pas le gouvernement. C'est dans ce contexte qu'intervient ce débat à l'Assemblée où l'on retrouve Adrien Toffoli.
De ce débat, le député socialiste du Val-d'Oise, Romain Eskenazi, nourrissait de beaux espoirs.
Moi, j'espère qu'on sortira des caricatures et des postures.
Espoir rapidement brisé au fil des propos liminaires des différents groupes parlementaires. Sans surprise, les attaques les plus vives venant de la famille politique du sénateur Duplomb, les Républicains, à l'instar du député de l'Aisne, Julien Dive.
Je m'adresse ici à la France insoumise et aux écologistes. Vous avez désigné des boucs émissaires en laissant croire qu'ils condamnent les enfants à mort. Ce débat est devenu fou. Il a échappé à la raison pour verser dans l'appel à la vindicte.
Vindicte contre les agriculteurs, dénoncée également par la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, qui estime que les inquiétudes des plus de 2 millions de signataires de la pétition ne peuvent pas s'ignorer, mais qu'elles ont été instrumentalisées.
J'ai parfois l'impression que les sujets que nous allons aborder aujourd'hui le sont sans les principaux intéressés, les agriculteurs. Car au-delà des anathèmes, parfois des fausses informations, des chiffres, nous parlons ici d'hommes et de femmes bien réels dont la profession est depuis des années malmenée par certains idéologues comme à l'extrême gauche de cet hémicycle. Ils n'en ont rien à faire des agriculteurs, mais alors rien du tout.
Accusation attendue par la co-rapporteure du débat du jour et également fervente opposante au texte, la députée insoumise de Seine-Saint-Denis, Aurélie Trouvé.
Il y a une vision trumpiste qui nie la science, qui nie la démocratie, qui a empêché le débat en hémicycle la dernière fois, qui s'oppose à 2 100 000 personnes qui ont signé en plein été une pétition. Ça, c'est la vision trumpiste du gouvernement et de tous ceux qui bataillent pour la loi Duplomb.
La plupart des députés présents le reconnaissent volontiers. Aucun consensus ne sortira de cette journée. Mais un bon échauffement avant la loi d'urgence agricole annoncée par Sébastien Lecornu et qui sera débattue avant l'été.
Adrien Toffoli à l'Assemblée. Avant ce débat, quelques centaines de personnes se sont rassemblées près du Palais Bourbon pour dénoncer la loi Duplomb et tous les textes pro-pesticides. Elles répondaient à l'appel de plus de 200 organisations comme Greenpeace, la Confédération Paysanne ou bien le Syndicat National d'Apiculture. Et militant, les manifestants étaient particulièrement déterminés.
Avec un objectif, faire entendre les revendications des plus de 2 millions de signataires de la pétition. Des voix négligées, d'après Sandy Olivar Calvo, spécialiste agriculture pour Greenpeace.
Plus que pas été entendues, on a l'impression qu'elles ont été méprisées. Qu'est-ce que c'est 2 millions alors même qu'on a une minorité de lobbies agroalimentaires qui, eux, prennent les décisions de politique publique pour l'ensemble du pays.
Au milieu des associations de défense des animaux, des professionnels de santé se mobilisent également.
La loi Duplomb souhaite réintroduire des pesticides qui sont extrêmement dangereux pour la santé. Ils sont cancérigènes, ils favorisent des troubles du neurodéveloppement.
Marie Gagis est une médecin généraliste. Elle est venue sensibiliser sur les risques sanitaires pour l'homme.
Un agriculteur qui fait des épandages avec ses toxiques qui rentrent chez lui et qui après est au contact de ses enfants et ses enfants sont sur ses exploitations sont en danger du fait de l'utilisation de ces pesticides.
Bernard, un agriculteur de 72 ans, est atteint d'une leucémie reconnue comme étant due à des pesticides. Selon lui, il est inutile de réintroduire l'acétamipride pour aider les producteurs de betteraves.
On a des collègues paysans dans les Hauts-de-France qui essayent de monter une filière de production de betteraves et de production de sucre bio, donc sans pesticides. Et on sait qu'ils produisent déjà de la betterave bio et ils mettent en place les moyens de transformer cette betterave en sucre. Et on sait que c'est possible. Donc arrêtons de justifier par la nécessité ou d'utiliser des pesticides pour produire de la betterave.
Certains députés comme François Ruffin, Marine Tondelier ou encore Mathilde Panot ont eux aussi participé à la manifestation.
Voilà pour ce reportage signé Émilie Tran. Comment mieux financer le secteur des transports? C'est tout l'enjeu de la loi cadre qui a été présentée ce matin en Conseil des ministres. Un texte destiné à soutenir les investissements dans les réseaux routiers et ferroviaires principalement. Entre 2031 et 2036, l'enveloppe consacrée à cet objectif augmentera chaque année de 2,5 milliards d'euros. Le projet de loi prévoit aussi une indexation des tarifs des transports sur l'inflation. Ce sont les collectivités locales qui décideront d'appliquer ou non cette augmentation. Il faudra en passer par là pour entretenir le réseau ferroviaire, c'est ce qu'estime François Delétraz, le président de la FNOT, la Fédération Nationale des Usagers des Transports.
Alors ça va pas coûter très cher pour les usagers, surtout en ce moment où l'inflation est faible. En revanche, c'est un pari pour l'avenir, parce que si on ne suit pas l'inflation, ça veut dire qu'il y a de la recette en moins, et si vous avez de la recette en moins, vous faites moins d'offres. Or, si on veut que les gens basculent de la voiture vers le train, il faut absolument qu'il y ait de l'offre. Et pour qu'il y ait de l'offre, il faut des recettes. Et donc, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Il faut de la recette. Et cette recette, elle peut pas être diminuée parce que l'inflation augmente et que le billet, lui, du TER, n'augmente pas. Il faut savoir qu'en France, en TER, le passager ne paye que 30% de ce que ça coûte. Le reste, c'est payé par les entreprises et par la collectivité locale. Donc, il faut absolument qu'on garde la part du passager pour pouvoir faire de l'offre. Je pense que le passager, lui, il demande du train, il demande de l'autobus, il demande à pouvoir être assis, il demande à pas attendre une heure pour en avoir un, etc., etc. Et donc, c'est ça qui compte. C'est ça le plus important. Et le prix vient après. Et d'augmenter de quelques pourcents tous les ans, c'est pas trop compliqué à obtenir. En revanche, ce qui serait difficile à obtenir, c'est qu'il y ait une grosse augmentation sans augmentation de l'offre. Alors ça serait très compliqué à faire adopter.
François Delétraz, président de la FNOT, répondait à Hakim Kasmi. Comme prévu et malgré les critiques des oppositions, Amélie de Montchalin a été nommée ce matin en Conseil des ministres première présidente de la Cour des comptes. Elle succède à Pierre Moscovici. L'actuel ministre des Comptes publics prendra ses fonctions le 23 février prochain. Elle sera alors la première femme à diriger l'institution. Emmanuel Macron était à Anvers aujourd'hui pour participer au 3e sommet de l'industrie européenne, un président français très attendu, tout comme d'autres dirigeants européens par plusieurs centaines de grands patrons inquiets pour la compétitivité de leurs entreprises. Ils réclament des mesures de soutien plus fortes que celles qui ont déjà été annoncées. Bonsoir Fabien Cazot.
Bonsoir.
Vous suivez ce sommet à Anvers où les industriels européens ont donné de la voix cet après-midi.
Effectivement, ils n'ont pas raté l'occasion qui leur était offerte dans ce décor néo-gothique de la Bourse d'Anvers pour apostropher les dirigeants européens venus échanger avec eux. Le patron du géant chimique allemand BASF, Markus Kamieth, a notamment interpellé la présidente de la commission, Ursula von der Leyen.
Madame la Présidente, notre appel est à la fois simple et urgent. C'est un appel à des actions audacieuses face à la crise que nous traversons. Les principales causes de notre érosion industrielle ne sont pas à chercher en Chine ou aux États-Unis. Les véritables causes, elles, sont européennes.
Prix de l'énergie trop élevé, taxe carbone aux frontières jugée pénalisante, simplification administrative encore en chantier. Message bien reçu, assure Ursula von der Leyen.
Vous demandez un réel changement, plus rapide. L'Europe change, mais doit en effet accélérer. Nous devons aller plus vite.
L'occasion pour Emmanuel Macron d'insister sur un thème qui lui est cher, celui de la préférence européenne.
Allez en Chine, vous n'avez aucune chance d'être traité à égalité avec un acteur local. Allez aux États-Unis, ils font de la préférence locale. Et regardez l'Europe. Nous investissons si souvent dans des solutions non européennes, nous sommes fous, littéralement.
Les échanges de cet après-midi nourriront les réflexions des chefs d'État et de gouvernements européens qui ont prévu de se réunir demain pour évoquer justement ensemble les enjeux de compétitivité.
Merci Fabien Cazot en direct d'Anvers avec Florent Layani pour les moyens techniques. Le Canada sous le choc après la tuerie survenue hier à Tumbler Ridge en Colombie-Britannique. Au moins 9 morts et 27 blessés dans cette petite ville sans histoire au pied des montagnes rocheuses. La personne qui a tiré s'est donné la mort après avoir ouvert le feu dans un établissement scolaire et dans une résidence. On parle d'une personne car les autorités canadiennes ne confirment pas qu'il s'agit d'une femme comme l'avait évoqué la presse canadienne. On ne sait rien non plus de ses motivations. Aux États-Unis, Donald Trump continue à détricoter les lois existantes pour lutter contre le réchauffement climatique. Le président américain abrogera officiellement demain un texte voté sous l'administration de Barack Obama, loi fondatrice qui organise la réduction des gaz à effet de serre dans le pays. Trump défend une abrogation qui permettrait aux Américains de faire des économies. Franck Madvon nous appelle de Washington.
C'est un texte clé pour la lutte contre le changement climatique aux États-Unis. Il est adopté en 2009 par l'Agence américaine de protection de l'environnement. 6 gaz à effet de serre, comme le dioxyde de carbone ou le méthane, sont considérés comme nocifs, des polluants dont il faut limiter les émissions. De très nombreuses règles s'appuient sur ce consensus, restrictions imposées aux voitures et aux camions, obligations notamment pour les industriels de déclarer leurs émissions de gaz à effet de serre. Ce texte a permis aux États-Unis de réduire leur contribution au changement climatique et l'administration Trump va donc l'abroger demain. La Maison-Blanche y voit le plus grand acte de dérégulation de l'histoire américaine, une économie estimée à 1300 milliards de dollars et une victoire majeure pour les partisans des énergies fossiles. Rien d'étonnant, l'administration Trump a toujours défendu le pétrole et le charbon. Le président lui-même qualifie le changement climatique d'arnaque. Les défenseurs de l'environnement dénoncent un déni de la réalité et promettent une bataille judiciaire pour faire annuler la décision.
Franck Madvon, correspondant de France Culture aux États-Unis. Retour à l'actualité française avec cette initiative originale à Lyon pour élargir le recrutement dans les filières artistiques. Pendant toute la semaine, 30 élèves de terminale scolarisés dans des quartiers dits défavorisés participent à un stage d'égalité des chances à l'école des Beaux-Arts. L'objectif est de les inciter à passer les concours d'entrée aux grandes écoles d'art, architecture, école du Louvre ou bien l'Institut français de la mode. C'est un reportage de Christophe Vincent.
Pendant 5 jours, les 30 lycéens sélectionnés s'initient à la photo, à la sérigraphie, à la sculpture ou à l'expression orale. Ils visitent des musées et surtout, ils acquièrent les codes d'un monde très éloigné du leur. Sonia Dahoui de la Fondation Culture et Diversité.
Notre but premier avec l'aide des écoles, c'est de les informer et de les sensibiliser sur l'existence de ces études, sur les concours d'entrée pour y accéder. Et ensuite, pour ceux qui sont intéressés, c'est de les préparer au mieux pour ces concours. Ces semaines-là d'immersion dans l'école, ça permet de se rendre compte de ce que c'est d'être étudiant, de se rendre compte aussi qu'on y a toute sa place. Et donc, généralement, à l'issue de ces semaines, ils se sentent plus à l'aise et plus en confiance pour passer les concours supérieurs après.
Pour tous, c'est une plongée dans l'univers créatif des subsistances au lieu de la culture lyonnaise. Fatou vient de Mantes-la-Jolie, Naïla de Montargis.
Ça fait un peu longtemps que j'ai envie de m'initier et d'en faire mon métier parce que j'ai toujours aimé dessiner. Personnellement, je ne me suis jamais vue rentrer dans une école comme les Beaux-Arts. Mais maintenant qu'on fait cette semaine-là, je me dis pourquoi pas. Mais en tout cas, je suis contente d'être ici. Moi, je pense que j'ai ma place ici. Il ne faut juste pas douter de soi et partir défaitiste.
On est là avec des étudiants qui nous expliquent et franchement, on apprend plein de choses. Moi, je m'oriente plus pour être professeur de français. Professeur d'art plastique, ça peut être bien. C'est plus pour voir si ça m'intéresse vraiment.
Ces jeunes ignorent tout des grandes écoles, notamment leur gratuité. Ils s'auto-censurent. Pour le directeur des Beaux-Arts, Morgane Labarre, on a besoin d'artistes issus de tous les milieux sociaux.
C'est très important de rentrer à l'intérieur et d'être immergé, de voir que c'est accessible. Comme pour tous les métiers, on se rend compte que dans les écoles d'art, il y a beaucoup de personnes issues de ces milieux, mais c'est la même chose pour la médecine ou pour le droit. Et l'objectif de stage comme celui-là, c'est vraiment, à terme, nous changer le recrutement aussi dans nos écoles.
Sur les 650 lycéens qui ont déjà fait un stage aux Beaux-Arts, 500 se sont présentés au concours avec 65% de réussite, 3 fois le taux national.
Christophe Vincent, correspondant à Lyon. Fabrice Lacroix est le nouveau président de l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, passé par l'agence France Presse, France Télévisions et Radio France. Ce haut fonctionnaire a été aussi directeur des finances du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. C'est la fin de plusieurs mois d'incertitude pour l'INA. Plus de 5 mois après la démission de l'ancien président Laurent Vallée, qui avait été interpellé fin juillet pour une livraison livraison de cocaïne à son domicile. Fabrice Lacroix, son remplaçant, a été nommé en Conseil des ministres ce matin sur proposition de la ministre de la Culture, Rachida Dati. La météo, dominée par l'arrivée d'une nouvelle tempête sur la France dans les prochaines heures, la tempête Niels. Trois départements sont en vigilance rouge pour le vent et les crues, l'Aude, la Gironde et le Lot-et-Garonne. Une vingtaine d'autres départements de l'Ouest sont en vigilance orange. Les rafales de vent pourraient atteindre les 150 km/h dans l'Aude. Les températures restent douces demain, entre 5 et 10 degrés pour les minimales, de 8 à 16 degrés pour les maximales du nord au sud. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Alison Vicrobeck à la technique d'Ali Yaha.